Je suis un petit peu impressionné. Donc je me présente, Daniel Viguier du Vivier. Effectivement, l'autonomie, c'est au cœur du projet Montessori. Et avec une amie, nous avons créé une association qui s'appelle le Centre de rencontres enfantines Montessori. Nous avons commencé à Boulogne-Billancourt par un tout petit jardin d'enfants, aidé par la mairie de Boulogne d'ailleurs, et puis le conseil général des Hauts-de-Seine. Et puis nous sommes venus nous installer à Maurepas, cela fait plus de 20 ans maintenant. Voilà, donc nous avons créé cette école. Il y a actuellement entre 60 et 65 enfants. On va de 20 mois jusqu'à 11 ans et on a un projet collège. Et effectivement, l'autonomie est au cœur du projet. J'ai préparé parce que par écrit ce que je voulais vous dire sur l'autonomie. Alors effectivement, la grande phrase de Maria Montessori, je vais peut-être rappeler un petit peu qui est Maria Montessori, c'est une des premières femmes médecins en Italie. Un dur combat pour être médecin, aussi bien au sein de sa famille que dans le pays. Elle a continué ses études aussi en France, en particulier avec les travaux d'Itard et Seguin. C'est l'enfant loup. Hein. Donc elle s'est appuyée d'abord là-dessus. Puis elle a fait de la psychologie, psychiatrie, etc. Et elle a eu une opportunité de créer une première maison des enfants à Rome, dans les quartiers pauvres de Rome, suite à une demande du maire, parce que ne savait pas trop quoi faire de ces quartiers, et les enfants erraient dans les rues, etc. Et c'est là qu'elle a fait toutes ses découvertes. Ça a été très vite, le développement des écoles Montessori, c'était en 1907, et ça s'est développé dans le monde entier à une grande vitesse. Elle est venue souvent en France. Par contre, en France, ça ne s'est pas beaucoup développé, et j'ai envie de dire, nous, on est une école privée, hors contrat, ça s'est surtout pas développé dans l'éducation nationale, malheureusement, contrairement à d'autres pays. Donc on est un peu les parents pauvres en France. Donc la phrase clé de Maria Montessori, c'est « aide-moi à faire seul » ou « aide-moi à agir seul » dès la toute petite enfance. Ensuite, quand ils sont un petit peu plus grands, au-delà de 6 ans, c'est « aide-moi à connaître le monde ». Ensuite, au collège, c'est « aide-moi à vivre avec les autres ». Et ensuite, au-delà du collège, « aide-moi à m'engager ». Telle est la demande de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. L'autonomie, c'est cette capacité d'exister librement, tel que l'on est, et de décider en conscience ce que l'on a à vivre, tout en restant ouvert aux autres, à leur avis et leurs conseils, sans pour autant s'aliéner à eux. Donc toute la pédagogie va tourner autour de ça et on va faire des propositions qui vont permettre à l'enfant d'être autonome. La personne n'agit plus en fonction des autres, mais à côté ou proche des autres et conserve sa liberté intérieure. Elle vit et s'adapte à son milieu humain tout en conservant son libre arbitre et ses propres valeurs. Il faut faire aussi une différence entre l'indépendance, c'est-à-dire le contraire de la dépendance, psychologique ou sentiment d'aliénation. Ne pas oser exister, par exemple, pour répondre aux attentes uniquement des autres. Petit à petit, l'enfant prendra lui-même ses décisions lorsqu'il aura acquis un sentiment de profonde sécurité et d'amour, qu'il n'aura plus de peur. Par exemple, la peur du jugement, la peur de décevoir, la peur de faire souffrir. Il faut éviter tout cela pour que l'enfant se dévoile et aille dans un élan de vie. En effet, on ne devient pas autonome non plus tout seul. Le petit homme, comme tous les mammifères, a besoin de ses parents pour l'y aider. Nous devons donc créer un environnement propice à l'exercice de la liberté. Effectivement, l'autonomie ne va pas sans la liberté. Nous devons créer un environnement ordonné et sécuritaire. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, comme je veux, sans créer quand même des sécurités autour de l'enfant. Et un environnement qui prend en compte les besoins physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels. Maria Montessori nous dit « Laisser faire ce qu'il veut à l'enfant qui n'a pas développé sa volonté, ce serait trahir le sens de la liberté. » Une des premières choses inventées par Maria Montessori est la réduction du mobilier scolaire à la taille de l'enfant. Ça nous paraît évident, mais c'était une véritable révolution à l'époque. Puis ensuite, elle a créé tout un matériel pédagogique que l'on appelle de psychodéveloppement, utilisable par l'enfant en autonomie. Une fois que l'adulte lui a montré le fonctionnement, l'enfant peut prendre les différentes activités autant de fois qu'il le veut, comme il le veut, et en général, quand il a épuisé ce qu'il a besoin de connaître, il passe à autre chose. Le matériel est dit scientifique parce qu'il a été étalonné et expérimenté. L'adulte devient un médiateur et pas seulement un transmetteur. L'adulte est présent et actif aux côtés de l'enfant, mais il doit aussi lui lâcher la main pour qu'à un moment, ce soit lui, l'enfant, qui fasse tout seul ce qu'il aura décidé de faire. Alors bien sûr, il existe toute une batterie d'exercices ou activités, par exemple des activités dites de vie pratique, des activités sensorielles, des activités de langage et de culture et des activités de mathématiques. La vie pratique, c'est ce que l'on peut facilement faire chez soi. Il y a aussi, par rapport à ça, une des clés d'or, c'est d'observer l'enfant et de voir ce dont il a besoin. Alors, des exemples. Vers 6 mois, par exemple, on peut mettre à disposition de l'enfant un lit à même le sol pour qu'il puisse se lever, se coucher quand il en a besoin. En général, d'ailleurs, c'est un lit suffisamment large. Il doit faire 1 mètre de large. En principe, la largeur doit être quand il a les bras étendus. Lui mettre des jouets à disposition sur des étagères ou quand il est tout petit sur un tapis, un tabouret pour accéder au lavabo ou à l'évier de la cuisine, permettre à l'enfant de porter un verre, des verres sur un plateau, laisser l'enfant s'habiller tout seul, monter ou descendre un escalier. Qui n'a pas entendu la réflexion d'un petit enfant dire « je veux faire tout seul » Même quand il a du mal, il veut quand même faire seul, même s'il n'y arrive pas, donc c'est vrai que ça va être très... très délicat de savoir le moment où on va intervenir pour vraiment l'aider. Car Maria Montessori nous disait « toute aide est inutile », c'est-à-dire si on intervient trop tôt, ben, ça peut entraver son développement. Alors c'est extrêmement délicat, il n'y a pas de recette miracle, hein, on fait comme on le sent et comme on peut. Malgré tout, le premier besoin de l'enfant, c'est la relation humaine. C'est dans le regard de l'autre que l'on se construit. La qualité des échanges entre le petit et ses parents est primordiale. En conclusion, je dirais que l'autonomie et les propositions montessoriennes vont jusqu'à la fin de vie, et en particulier pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, grâce au professeur Cameron Camp qui intervient en France dans le réseau AG&D. Voilà, si vous avez des questions...
Merci. Alors, est-ce qu'on prend des questions maintenant ou on entend notre second intervenant ? Jonathan. Donc Jonathan du LAP. Donc je te propose de nous expliquer un peu ce que c'est le LAP, parce que c'est un grand mystère pour nous tous. Et puis après, comme ça, vous poserez toutes les questions qui vous passent par la tête.
Donc bonsoir. Donc je m'appelle Jonathan, je viens du LAP, donc lycée autogéré de Paris. Comment vous expliquer ? Le LAP, c'est, on va dire, déjà une grande famille. Ça fait 30 ans qu'il existe, on a fêté les 30 ans l'année dernière. Donc le LAP, ses principes, il y en a deux, c'est la libre fréquentation et l'autogestion. Donc l'autogestion, pour vous expliquer en bref, dans le lycée, il n'y a que les profs et les élèves. Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de cuisinier ou de cuisinière, il n'y a pas de direction, il y a juste les profs et les élèves. On fait tourner le lycée vraiment de nos mains. Donc on le fait tourner par différents plages horaires qu'on a dans l'emploi du temps, à commencer par les GB, donc groupe de base. En fait, c'est une plage horaire où on se retrouve le mardi après-midi de 14 à 16 heures. Il y a trois profs et tout. Et en fait, chaque prof a, on va dire, entre 5 et 6 tutés. Donc, en fait, sur cette plage horaire-là, on se retrouve entre profs et tutés. Donc, il y a généralement trois profs et tous ces tutés. Et donc, c'est là qu'on va parler vraiment de la vie politique du lycée. Donc, on va voter beaucoup de choses. Ça passe par beaucoup de choses. La dernière fois, on a voté s'il fallait une nouvelle cafetière dans la cafette. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Dans chaque GB, en fait, à chaque séquence, donc de vacances à vacances, on élit deux délégués qui vont donc en RGG, Réunion Générale de Gestion. Donc là, c'est un petit peu comme... comment expliquer ça ? Le conseil d'école, en fait, qui aura dans un tradit, ben, ça se passe en RGG. Voilà. Et puis sinon, un autre endroit où ça se passe beaucoup, c'est les commissions. Donc il y en a beaucoup. Il y a la commission budget, qui gère le budget du lycée. La commission cafette, qui gère tout ce qui est repas, café, tout ce qui concerne la cafette. Une autre, la commission accueil, dans laquelle je fais partie, où on gère les relations avec l'extérieur. Et voilà. Donc ensuite, on a les AG. Généralement, il y en a peut-être deux ou trois par semaine, donc assemblée générale, où vraiment, là, on va discuter tout le lycée ensemble des problèmes qui a pu se passer dans la semaine, ou plein d'autres choses. Voilà. Et donc, voilà. Le lab, c'est ça. C'est des élèves et des profs. Il y a que de la motivation. On ne peut pas en dire plus. Oui, donc les cours. Donc c'est un lycée général. De temps en temps, on travaille, oui, effectivement. Donc on a un lycée général. Donc ça prépare aux filières L, ES et S. Malgré ce que beaucoup pensent, quand ils arrivent au lycée, les profs, ce sont de vrais profs de l'éducation nationale. Il y en a beaucoup qui arrivent en se disant c'est des faux profs. Et donc les cours, c'est voilà, on a les mêmes cours que dans le traditionnel. Ça se déroule vraiment autrement. C'est pas du tout la même chose. Chaque élève et prof fait vivre le cours. Un élève qui va pas venir, en fait, c'est un élève qui va pénaliser le reste de la classe parce qu'il il apporte pas sa présence, il apporte pas son grain de sel, en fait. Et donc c'est dommage pour lui, mais c'est surtout dommage pour le lycée. Ensuite, donc on parlait du deuxième principe du lycée, c'est la libre fréquentation. Donc il y en a beaucoup qui l'interprètent très mal. La libre fréquentation, c'est pas je viens quand je veux. Non, c'est en fait, on a possibilité d'aménager son emploi du temps. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'on arrive en seconde, que l'année prochaine on dit allez, je vais aller en L. La personne, elle se dit au moins les maths, ça me saoule. Rien à foutre. Il dit, alors dès le début de l'année, je vais pas aller en maths. Voilà. Mais c'est-à-dire que si après il dit qu'il va en français, tout le reste de l'année, il devra aller en français. Donc on est vraiment libre de ce qu'on peut faire au lycée. On gère vraiment le lycée. On fait le ménage, on fait la cuisine, on gère le budget. Et donc après, le lycée, il y a plein d'autres choses. Il y a des ateliers, il y a des projets. Des projets, il y en a énormément. Moi, par exemple, je fais partie du projet Escalade. L'escalade, c'est tous les jeudis après-midi. On part dans une salle faire de l'escalade. Et en fin d'année, on part pendant une semaine dans le sud de la France, escalader des pics de 120 à 170 mètres de haut. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore ? Il y a les ateliers. Donc les ateliers, il y a énormément de choses. En fait, tout ce qu'il y a au lab, c'est des choses que généralement, vous ne trouverez jamais dans le traditionnel. C'est-à-dire qu'on a une émission de radio qui appartient au lab. On a du théâtre, bon ça y en a. Il y a atelier musique, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses. Mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses qu'il n'y aura jamais dans le traditionnel. Et donc voilà, si vous avez des questions. Ah si, un petit dernier mot, s'il y en a d'autres qui sont intéressés par le lab, vous pouvez venir, donc la commission accueil qui gère l'accueil des nouveaux élèves et des gens qui veulent se renseigner. Il y aura une commission accueil donc le jeudi 29 novembre à 9h. Donc pour ceux qui veulent venir. Et puis s'il y en a qui veulent d'autres dates, ce sera sur le site du lycée. Donc vous tapez lycée auto géré de Paris, ce sera le premier. Voilà. Donc maintenant s'il y a des questions. Oui ?
En général, c'est combien pour classe ?
Je réponds ?
Ouais.
Par classe, on est. Ça dépend vraiment des cours. Parce que par exemple, pour les matières comme les maths et le français, par exemple, tout le niveau seconde est réuni dans la même classe. Sachant que tous les élèves ne vont pas en cours non plus. C'est-à-dire que par exemple, au LAP, en tout, on est 250. Par jour, au niveau présence, on est peut-être entre 150 et 175. Donc, ça tombe beaucoup.
Alors,
là, quand vous arrivez au LAP, vous êtes déjà au lycée. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'école primaire, le collège? Pas seulement vous, mais les élèves en général. Est-ce que c'est une école Montessori ou une école traditionnelle?
La plupart, en fait, on vient du traditionnel. Donc, généralement, on vient au lycée parce qu'on n'aime pas le système traditionnel. Ou alors, tout simplement, parce qu'on veut découvrir une nouvelle façon de travailler. Et enfin, chacun a son trajet, chacun a son parcours. Donc, il n'y a pas de parcours type pour aller au LAP. C'est vraiment, tout le monde est différent. Donc, chacun a sa manière de venir au LAP. Chacun a sa raison de venir au LAP, et voilà.
Donc, je veux bien que tout le monde lève la main, donc, à la fois pour les questions pour l'école Montessori de Morpa et pour le LAP. Donc, si on joue. Oui.
C'est ça un petit peu par rapport à ce qu'il y a beaucoup de demandes et comment on sélectionne entre les élèves qui ont
envie de. Alors, une question sur la sélection, entre guillemets.
Donc, généralement, moi quand je suis arrivée l'année dernière, en fait, voilà, pendant les commissions accueil, donc, qui se passent un jeudi par mois de 9h à 11h, tous les élèves qui désirent rentrer au LAP viennent à cette réunion et à l'issue de cette réunion, ils vont laisser leurs coordonnées. Donc, ils vont laisser leur numéro de téléphone, tout ça. À aucun moment dans l'inscription, il faut le préciser, on demande l'avis des parents. Que ce soit la signature ou quoi que ce soit. Pendant la période d'inscription, les parents ils sont laissés. Voilà. Pareil, une autre particularité, pour la réunion, s'il y en a qui sont intéressés, les parents peuvent rentrer dans la salle que s'il reste de la place. Donc, voilà. Sinon, après, on nous recontacte et on est convoqué pour un mini-stage de 2 jours. Donc, pendant ces 2 jours-là, on va tester votre motivation, votre capacité à s'intégrer au LAP. Et à l'issue de ce stage de 2 jours, on a un entretien. Donc, généralement, c'est un professeur du LAP et 2 anciens élèves du LAP. Donc, pareil, qui vont vous demander pourquoi. Là, c'est vraiment un entretien particulier. On va vous demander pourquoi vous venez au LAP, quelles sont vos raisons, quel est votre parcours. On n'est pas jugé du tout sur les événements passés. C'est-à-dire on peut avoir fait plusieurs collèges pour maintes raisons, on ne sera pas jugé. Et en tout dernier, on a un petit test. Le test, il faut avouer qu'il ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, on n'est pas pris sur nos capacités scolaires. Et donc, à l'issue, on nous recontacte et on nous dit si on est pris ou pas. Mais en fait, le LAP prend vraiment sur les motivations. Il n'y a pas de... Toi, t'es nul, on ne prend pas. Toi, t'es trop fort, va plus ailleurs. Enfin, on prend vraiment sur la motivation. On ne parle pas tout de suite du niveau scolaire.
Daniel, du coup, je te pose la même question. Pour intégrer une école Montessori ou celle de Morpa, comment ça se passe?
Alors, la plupart des écoles Montessori sont privées hors contrat, donc très coûteuses. Il n'y a pas de conditions particulières. Malheureusement, à l'heure actuelle, en France, il n'y a pas de collège. Il y a 2 collèges Montessori dans toute la France. Deux vrais collèges Montessori dans toute la France. Sinon, ça fonctionnerait un petit peu comme le collège... Comment ça s'appelle ? Le LAP. Si ce n'est que le collège... Alors, nous avons un projet de collège... La difficulté, c'est de trouver des locaux et c'est des difficultés financières, bien sûr. Nous avons un projet de collège Montessori dans la région. Et le projet, en général, tourne autour de la ferme pour, disons déjà, se mettre dans l'ambiance d'une vie où, petit à petit, les enfants vont autogérer aussi leur école. Et donc, nous cherchons des locaux à l'heure actuelle pour faire un collège. Mais en France, il n'y en a que deux, un dans le sud et un à Grenoble.
Merci. Alors, est-ce que les personnes qui veulent poser des questions peuvent toutes lever la main? Comme ça, je vous vois. Une, deux, trois. Je vais commencer par la plus proche.
Oui, vous avez parlé tout à l'heure d'Alzheimer. Quel est le lien entre l'école Montessori et les malades d'Alzheimer?
Alors, c'est un Américain, Cameron Camp, dont la femme était enseignante Montessori, donc qui est américain, et qui s'est rendu compte qu'on pouvait adapter. C'est une adaptation. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire, je crois que c'est la mémoire, je ne connais pas très bien, la mémoire procédurale qui est toujours active, mais qu'il faut réactiver, si on peut dire. Donc, bien, on donne aux personnes âgées aussi, pareil, qu'elles retrouvent de l'autonomie. Et il y a des exercices qui sont adaptés pour les personnes âgées. Actuellement, ce réseau se développe, j'ai envie de dire, à la vitesse grand V en France depuis 4-5 ans. Sinon, la méthode était expérimentée aux États-Unis depuis plus de 10 ans. Cameron Camp a une exclusivité, si on peut dire, avec le réseau AGED. Et il fait tous les ans une ou deux interventions. Pour les équipes qui sont dans les maisons de retraite. Alors, nous, par exemple, nous avons un projet, si on fait le collège Montessori, c'est un projet intergénérationnel, c'est-à-dire qu'on veut le faire avec une maison de retraite.
Voilà, pour qu'on continue la vie.
Justement, je vais répéter. Donc en gros, ce que disait la jeune fille, c'est qu'il n'y a... Bon, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que donc comme il n'y a pas très peu de collèges, en gros, comment font les élèves? C'est ça qui... Parce qu'après, du coup, ils se retrouvent dans le traditionnel. Et ta question, c'est comment ils ressentent ça? Voilà. Et l'autre question...
C'était une question par rapport à l'enseignement public, parce que c'est super contenu, mais comment ça se fait que depuis tant d'années, il n'y a pas...
Alors, donc je répète les questions pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc celle-ci, c'était une double question, à la fois au niveau des politiques publiques. Donc ça fait longtemps qu'on entend parler des écoles Montessori, comment est-ce que ça se fait qu'il n'y a pas de politique publique en ce sens? Et après, sur le lycée autogéré, c'était... Ah oui, si c'est un lycée public ou pas. Déjà, première question, les élèves qui ont compté à l'école Montessori, qui ne peuvent pas aller dans un collège Montessori, qui se retrouvent dans le traditionnel, qu'est-ce qui se passe pour eux?
Alors, les enfants, comme je vous ai parlé de l'autonomie, les enfants sont autonomes quand ils ont 11 ans ou 12 ans, ou entre 10 et 12 ans. Donc l'intégration est très rapide, en un mois, et ils sont mieux préparés, enfin, c'est ce que nous disent les anciens élèves, hein. Et ils se trouvent mieux préparés parce que déjà, ils savent travailler en autonomie et ils se débrouillent très bien. Pourquoi il n'y a pas plus d'écoles publiques? Alors, il y a quelques classes par-ci, par-là, comme ça. Il y a des personnes qui se forment à la pédagogie Montessori. Il y a un diplôme, il y a une formation par tranche d'âge. Alors, il y a 0-3 ans, 3-6 ans, 6-12 ans. Et après, pour le collège, ça commence en France. Et chaque tranche d'âge, ça représente à peu près 800 à 900 heures de cours. Donc, il y a quelques personnes qui sont formées et qui travaillent dans des écoles publiques. Mais c'est vrai que c'est relativement rare et elles sont très dispersées. Actuellement, il y a actuellement une expérience à Gennevilliers, dans des quartiers donc défavorisés, dans une classe maternelle. Je crois qu'ils ont entamé leur deuxième année de fonctionnement. Donc c'est payé par l'État. Ce sont des personnes qui ont une double formation d'instituteur, enfin, professeur des écoles et le diplôme Montessori. Ça marche très bien, sauf que l'inspecteur, ça ne lui plaît pas, par exemple. Alors il y a d'autres zones où c'est le contraire, ça arrive. Mais c'est vrai qu'ils sont très dispersés. Pourquoi ça n'a pas pris comme dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie, il y a des écoles privées et des écoles publiques. Montessori. En France, lorsque Maria Montessori a commencé en 1907. Juste l'organisation administrative de l'école, en particulier de l'école maternelle, venait de se faire. Et là, on ne sait pas trop, mais a priori, ils ne sont pas revenus en arrière. Et c'est pour ça que c'est resté séparé. Actuellement, il y a une demande de la part de personnes à l'éducation nationale, des grands inspecteurs généraux, comme on dit, qui sont venus voir et qui travaillent là-dessus. Donc il y a un peu des liens, mais bon, c'est très difficile. Et c'est la plupart, nous, les enseignants Montessori, on se dit des travailleurs sociaux, et on est navrés, effectivement, de cet état de fait. Là, à Gennevilliers, avec les enfants, ça marche très bien. Des enfants de 5 ans qui savent déjà lire. Mais l'inspecteur, ça ne lui plaît pas. Pourquoi ? On ne sait pas vraiment.
Merci. Alors, donc on a déjà le pain qui arrive sur la table. Je ne sais pas où c'en est. Donc, l'occasion de... Donc, Jonathan, si tu peux répondre à la question sur lycée autogéré. Est-ce que c'est un lycée privé-public ?
Donc, c'est un lycée public. On fait partie de l'Académie de Paris. Niveau budget, on s'accroche pour en avoir un. Sinon, faut bien qu'on comprenne aussi que les profs sont de l'éducation nationale, mais on n'est pas vraiment en accord avec eux, en fait. Donc je dirais pas que c'est la guerre, mais on n'est pas copains. Voilà.